Archivif. Un voyage entre culture, patrimoine et sport au cœur du département de l'Ardèche.
Un nouvel épisode pour notre magazine Archivif consacré, et pas que, mais tout de même, aux sept merveilles de l'Ardèche. Aujourd'hui, on va réunir deux univers qui, comme ça, n'ont peut-être pas grand-chose en commun. Et pourtant, si, vous allez le découvrir. Randonnée et musique de chambre au Château de la Tourette, c'est ce qui nous attend ce samedi 28 juin. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'être en studio en compagnie de Christophe Colette. Bonjour Christophe.
Bonjour à vous.
Vous êtes directeur artistique du Quatuor de Bussy. Merci d'être avec nous. À nos côtés, Enzo Roux. Bonjour Enzo.
Bonjour à tous, bonjour Vincent.
Vous êtes un des fils rouges de cette émission Archivif, chargé de mission 7 merveilles de l'Ardèche auprès du conseil départemental. À vos côtés, on retrouve Gonzague de la Tourette. Bonjour Gonzague.
Bonjour.
Merci d'être aussi autour de cette table. Vous êtes le propriétaire du château de la Tourette et puis également en notre compagnie, celle qui est conservatrice déléguée aux antiquités et objets d'art aux archives départementales de l'Ardèche. Il s'agit d'Aude Poinceau. Bonjour Aude.
Bonjour Vincent.
Merci à tous donc d'être réunis pour évoquer ce rendez-vous du 28 juin. Avant de faire un petit peu d'histoire autour de ce château de la Tourette, Aude, je crois savoir que vous avez une petite accroche que vous avez tirée des archives à nous proposer.
Oui, alors aux archives, nous conservons des histoires en fait de toute l'Ardèche grâce à Albin Mazon qui est un célèbre érudit ardéchois et qui nous fait voyager dans le département. Et grâce à lui, eh bien, je peux vous raconter effectivement l'histoire d'Agrippa. Donc ce n'est pas un descendant du général romain, mais bien un huguenot haut en couleur et compagnon de voyage de ce fameux Albin Mazon au pays des Boutières. Donc Albin Mazon nous écrit ceci. « Le vrai centre féodal du pays était le château de la Tourette, dont les ruines pittoresques se dressent encore sur un rocher abrupt à une demi-lieue de Vernoux, comme un type frappant notre ancienne architecture militaire provinciale. » Alors la rencontre avec Agrippa eut lieu à Vernoux, à 8 km au nord du célèbre château, au hameau de la Justice. Alors qui était ce personnage? C'est un original, m'avait écrit notre ami commun, un laboureur nourri de sentences rurales, autant que de paroles d'évangile, mais un esprit droit et un cœur d'or. Un de ces huguenots du bon coin, comme on n'en trouve plus guère, du moins comme peu ose se montrer. Le docteur Francus sans doute nous dit en nous interrogeant de la façon la plus courtoise un petit vieux, sec et ratatiné, mais dont les yeux brillaient à travers des lunettes bleues comme des yeux de 20 ans. Alors le docteur Francus, c'est bien sûr Albin Mazon. Albin Mazon répond, lui-même, fort heureux de rencontrer ici monsieur Agrippa. La connaissance fut vite faite, bien qu'avec une vraie tête de calviniste, Agrippa avait un air de franchise qui lui concilia immédiatement toutes nos sympathies. L'occasion s'étant présentée de parler des momiens. Alors les momiens, ça vient du terme momier, qui désignait les contestataires religieux en Suisse. Et ce terme était utilisé dans le canton de Saint-Agrève, en Ardèche, et encore aujourd'hui dans la région de Chambon-sur-Lignon. « Savez-vous, dit Agrippa, pourquoi cela valent mieux que nous ?» Donc il parle des momiens. « C'est parce qu'ils n'ont pas rompu avec la terre, avec la vie des champs. Ils aiment cette terre nourricière, ils la cultivent, et elle leur donne, en retour, non seulement des fruits, mais de bonnes inspirations. S'il s'est maintenu quelque protestantisme dans nos montagnes, et permettez-moi d'en dire autant du catholicisme, c'est surtout à la vie rurale que ce résultat est dû. Moins de bavards des villes, et plus de travailleurs des champs. Voilà le premier remède à notre décadence religieuse, comme à notre décadence nationale. »
Docteur Francus, qui fait lui aussi partie de notre patrimoine ardéchois. Merci, Aude Poinceau, pour cette petite mise en situation. Je me tourne vers vous, Gonzague de la Tourette. L'histoire du château, sa période de construction, son rôle au fil du siècle, c'est quelque chose, j'imagine, dans votre famille que vous connaissez particulièrement bien.
La Tourette se compose, en fait, il y a trois éléments intéressants. Il y a le donjon, ou tout au moins ce qu'il en reste aujourd'hui, qui était dont la construction démarre au XIIIe siècle. Certains historiens parlent d'une tour sarrasine établie auparavant, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Après le donjon, où il y a eu la construction d'une maison forte pour protéger l'accès au château qui se faisait par un système de double pont-levis. Et il y a le troisième élément intéressant, c'est une terrasse construite au Moyen-Âge qui fait à peu près 100 mètres de long et il y a un mur de soutènement très important réalisé en rocher, des blocs bien alignés et qui tiennent encore. L'endroit le plus haut de cette terrasse mesure 11,50 m. Et là, c'est un véritable, pour moi, un chef-d'œuvre des anciens d'avoir construit ce mur de soutènement avec des pierres de toute taille et de toute forme, mais très bien alignées. Et ça tient encore aujourd'hui, avec notamment, ils avaient prévu un système de drainage qui fait que lorsqu'il y a des pluies importantes, la terrasse étant surplombée par un massif rocheux, l'eau arrive sur la terrasse, fait une mare et ça s'évacue à la base du mur, encore aujourd'hui, par un système de barbacane.
Donc là, on peut admirer le savoir-faire des anciens et leur connaissance aussi, à la fois de la géologie, de l'hydrologie et de cet environnement sur lequel a été implanté ce château.
Voilà, tout à fait, oui. C'est un travail remarquable, oui.
Alors un château qui est original de par sa position au-dessus de la vallée de la Dunière notamment. Gonzague, avec les 7 merveilles de l'Ardèche, vous offrez une journée d'ouverture au public supplémentaire. Pourquoi, pour vous, en tant que propriétaire, c'est important de partager ce lieu, de le faire découvrir, de transmettre tout cela?
Parce que c'est un lieu qui est magnifique. Le site est inscrit, c'est un site remarquable d'Ardèche. C'est une construction... pour moi, je trouve assez fabuleuse parce que, outre le donjon, il y avait des murs d'enceinte. On a encore la trace de deux tours. Il y a la maison fortifiée qui compte 20 meurtrières ou bouches à feu ou fenêtres de tir. Ce qui veut dire que rien que pour défendre cette maison forte qui protégeait donc l'accès au château, il fallait une vingtaine de personnes. Et... si on fait le calcul de toutes les autres fenêtres de tir ou meurtrières qui pouvaient exister à l'époque, en gros, il fallait une cinquantaine de personnes si on voulait mettre un défenseur devant chaque meurtrière ou fenêtre de tir. Donc c'est un ouvrage défensif important. Bon, aujourd'hui, moi, je me pose la question, mais pourquoi avoir construit un tel ouvrage à l'époque? Ce château domine les gorges de la Dunière. Alors il faut croire qu'il y avait un passage ou tout au moins une circulation relativement conséquente et parfois avec des gens mal intentionnés pour construire un ouvrage défensif d'une telle importance.
Et vous trouvez qu'il est méconnu finalement votre château et que c'est important aussi de le faire connaître aussi bien aux gens de passage qu'aux Ardéchois eux-mêmes.
Oui, ouais. Tout à fait, oui. Alors les gens du pays le connaissent bien parce qu'il est en ruine maintenant, mais les gens, c'est un lieu de balade et de promenade pour les habitants d'Avernoux. Alors au passage, je signale que cet ouvrage défensif n'est pas lié à un habitat. La tourette se trouve à un peu plus de 3 km de vers nous et il n'y a pas d'habitat à proximité. Donc c'est un ouvrage isolé comme on en retrouve autour du territoire délimité par la vallée de l'Erieux et la vallée du Doubs. Bon, vous connaissez Rochebonne, il y a la tourette, il y a Collant, le Haut-Villard, Maison-Seule. Ce sont des ouvrages défensifs qui sont isolés.
Et qui avaient uniquement une vocation militaire.
Militaire et qui surveillait les points d'accès à ce territoire de Vernoux et compagnie. Là.
Alors rapidement, Gonzague, est-ce que vous avez des projets pour la suite au château de la Tourette, notamment des chantiers de restauration que vous souhaitez mettre en œuvre?
Alors on a restauré la maison forte, maintenant c'est fait. On a notamment refait un escalier en vis qui avait perdu la plupart de ses marches, là, ça c'est fait. On a refait les joints des façades. Alors reste le donjon, ou tout au moins les pans de mur du donjon. On voudrait essayer de les consolider, mais c'est un chantier conséquent. Et les premiers chiffrages nous laissent peu d'espoir de pouvoir réaliser cette consolidation.
voyage entre culture, patrimoine et sport, au cœur du département de l'Ardèche.
Toujours à l'écoute de ce nouvel épisode de notre magazine Archivif, on vient d'écouter le quatuor Debussy, dont le premier violon est directeur artistique également du festival Cordes en Balade, est avec nous, Christophe Colette, également autour de la table pour ce nouvel épisode d'Archivif, Enzo Roux, pour les 07 Merveilles de l'Ardèche, chargé de mission au sein du département, Aude Poinceau pour les archives départementales de l'Ardèche, et Gonzague de la Tourette, qui accueillera donc ce 28 juin cette rando musicale du côté de Vernon-en-Vivarais et du château de la Tourette. Je me tourne vers vous, Christophe Colette, pour les Cordes en Balade, dont vous êtes le directeur artistique, en tout cas du quatuor Debussy, à qui on doit ce festival emblématique de notre territoire ardéchois. Rapidement, vous pouvez nous en dresser le portrait pour les auditeurs qui seraient passés à côté depuis 25 ans.
Depuis plus de 25 ans maintenant, effectivement. En 1999, le premier festival. Je crois que c'est la volonté du quatuor Debussy, donc ensemble de musique de chambre créée là, il y a encore 10 ans de plus, donc 35 ans, et qui est basé sur Lyon, d'avoir une implantation territoriale forte. Et c'est vrai que le département de l'Ardèche recèle de telles merveilles à tous les niveaux, à la fois humaines et puis architecturales. J'écoutais avec passion M. Latourette nous parler de ce château, qui est encore un endroit que je ne connais pas suffisamment. Et c'est vrai qu'associer le patrimoine et la culture et la musique, c'est quelque chose qui me passionne, puisque ça nous ouvre la porte à des propositions très différentes, parce que je crois que ce qui est passionnant dans un festival, c'est justement de se promener de lieu en lieu et d'adapter le contenu et la proposition musicale au lieu que l'on rencontre. Donc c'est probablement une des caractéristiques du festival Cordes en Balade.
C'est votre ADN, oui.
Oui, c'est vraiment l'ADN du mot balade, même si on a fait un petit jeu de mots avec les deux L qui se rapprochent de la balade musicale de Chopin, mais on y associe bien entendu le mot promenade. C'est se promener, apporter la musique différemment, avec un côté convivial, un côté qui va s'adapter à la fois dans la forme, dans le contenu. C'est pas que de la musique classique, c'est du mélange. On peut avoir du jazz, de la musique actuelle, on peut mélanger tout ça et surtout profiter du lieu dans lequel on se trouve.
Alors avec les Cordes en Balade, au fil des années, vous avez, passez-moi l'expression, écumé le territoire ardéchois. Vous êtes allé dans de nombreux lieux, vous êtes partenaire de nombreuses structures culturelles aussi. Il y a les académies d'été aussi, oui, qui ont lieu sur notre territoire. Vous avez envie de continuer à développer ça, d'aller encore plus loin?
Bien sûr. Alors déjà, on n'aura jamais fini d'écumer l'Ardèche. Et heureusement, je crois que c'est un département dont les ressources sont inestimables. Cet été, c'est 28 rendez-vous dans 22 communes. Donc je pense qu'on a dû visiter à peu près 50 à 60 communes, mais il en reste encore. Il en reste, et je suis très heureux de cette nouvelle rencontre à Vernou dans ce château. Les Cordes en Balade, ce n'est pas uniquement le temps estival, c'est certes le temps fort, mais c'est aussi tout ce qu'on y fait dans l'année. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour tout ce qu'on appelle les parcours artistiques, c'est-à-dire aller à la rencontre d'un public. Ça va être une chorale amateur, ça va être partager la scène avec des enfants, bien sûr. Là, on a toute une série avec les maternelles de Tournon. Qu'est-ce qu'on fait avec 50 enfants de maternelle et un quatuor à cordes? Ben oui, on peut faire des choses, on peut faire un concert. On partage la scène avec des écoles primaires, la musique pour tous, partout, et puis avec tout le monde.
Le quatuor Debussy qui est connu de nombreux ardéchois, de nombreuses ardéchoises, car vous touchez tous les publics. Il y a aussi cette volonté de démocratiser la musique classique, de la rendre accessible.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la musique classique, en Cordes en Balade, on est très très loin du concert figé, traditionnel, tel qu'on peut le voir dans toutes les grandes salles, qui est une forme tout à fait respectable, que j'aime beaucoup. Mais je crois que nous, ce qu'on a envie de montrer, c'est autre chose. Cette proximité, cette transformation aussi de l'esthétique classique. Comment on peut faire évoluer cette musique? Comment on peut la faire croiser avec d'autres sur des œuvres, sur nos invités qui peuvent venir de plein d'univers différents?
Je me tourne vers vous, Enzo Roux, chargé de mission des 7 merveilles de l'Ardèche. Donc ce rendez-vous à Vernou, c'est la troisième date de ce programme que vous avez mis en place pour cette année 2025. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en dresser le programme et nous préciser un petit peu ce qui va se passer?
Exactement, la troisième date 07 merveilles 2025 du côté de Vernou. Donc on sera le samedi 28 juin 2025, on va partir de la fin de matinée qui devrait s'étaler jusqu'en milieu d'après-midi, au programme un peu de marche jusqu'au lieu, un peu de musique de chambre et bien sûr un peu de visite de ce lieu incontournable de la vallée de la Dunière. Et bien sûr, on vous l'avait annoncé en début de saison, on voulait laisser un petit peu de place au sport. Alors, pas de panique, on ne parle pas de sport de haut niveau, mais
déjà
une petite randonnée.
Déjà monté jusqu'au château, c'est une petite randonnée.
Alors, c'est une toute petite randonnée, 3 km sur ce magnifique GR de pays des Tours de Vernoux-en-Vivarais. C'est un GR qui fait quand même 84 km dans sa globalité. Alors, encore une fois, rassurez-vous, on ne fera pas les 84 km, seulement 3 km du centre-ville de Vernoux pour des questions d'accessibilité. On va tous se retrouver, je pense, au niveau de la mairie, faire un petit départ groupé de cette mairie et faire ces 3 petits kilomètres sur route, un parcours qui est assez plat, donc assez accessible pour tout le monde, pour toute la famille. Et on devrait compter au grand maximum une heure de trajet aller pour se rendre jusqu'à ces magnifiques terrasses dont on a commencé à dresser le portrait tout à l'heure. Et on fera un petit pique-nique tiré du sac sur ces terrasses avant d'assister à ce concert du Quatuor Nouveau Talent sur lequel nous reviendrons. Et enfin, le propriétaire nous accompagnera un petit peu, nous expliquera plus en détail la vie du lieu, l'histoire et puis tout ce qu'on peut y observer sur ces terrasses. Et j'aimerais aussi remercier le club de randonnée de Saint-Péret, les Éclos, qui nous accompagnent dans cette petite randonnée. Denis Donat, d'ailleurs, accompagnateur de randonnée, qui fera partie de la balade et qui encadrera notre petit groupe toute la matinée.
Aude Poinzo, aux archives départementales, ce genre d'événements comme ça, qui sont liés de très près à notre patrimoine matériel, mais pas que, j'imagine que c'est des moments aussi précieux que vous attendez aussi avec impatience.
Oui, complètement. Et puis on a beaucoup de liens justement avec les propriétaires des lieux, les associations historiques qui nous contactent pour des recherches justement dans les archives, que ce soit sur les textes ou sur les iconographies, pour venir effectivement compléter leur historique sur les lieux dont ils sont propriétaires ou qu'ils souhaitent valoriser. Donc on a énormément de demandes de recherche, oui, de la part des Ardéchois et pas seulement.
Et ça peut être l'occasion aussi, ce genre de rendez-vous, de s'apercevoir que parmi les participants, il y a des gens qui peuvent avoir des choses aussi à vous transmettre et qui seraient restés jusqu'à présent dans le cercle strictement familial.
Oui, parfois, effectivement, des personnes se rendent compte que ils souhaitent donner soit des archives ou des objets aussi. Et puis ils savent pas trop comment s'y prendre, donc on est là pour les conseiller sur la suite, la transmission en fait de leur patrimoine, qu'il soit écrit ou matériel, et ça vient compléter nos fonds effectivement d'archives.
Christophe Collet, ce quatuor Nouveau Talent qui va intervenir le 28 juin au château, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Je crois savoir que c'est un quatuor qui est lié à cette Académie d'été dont on parlait tout à l'heure.
Tout à fait, l'Académie d'été donc, qui est aussi une des composantes fondamentales du festival, puisque c'est aussi un lieu de transmission pour les musiciens et les futures générations de musiciens, se compose pour une partie de ce qu'on appelle les nouveaux talents, qui sont déjà des quatuors professionnels ou pré-professionnels. Et donc, il y en a 4 ou 5 qu'on appelle les nouveaux talents et qui vont sillonner pendant tout le festival le territoire pour irriguer de musique un petit peu tous les lieux. Et ce quatuor Peregrino, moi, me tient beaucoup à cœur, puisque c'est un quatuor qui nous vient de très loin. Il vient de Colombie.
Monte en Colombie aussi. Ils ne seront pas dépaysés.
Ah non, puis c'est vraiment un lieu d'apprentissage de la culture qui est phénoménal. Nous, ça fait 3 ans qu'on est en résidence avec l'Orchestre National des Jeunes de Colombie. Et donc, c'est dans le cadre de ce partenariat que je fais venir ce quatuor. Et donc, c'est ce quatuor qui ouvrira les 28 concerts dont je parlais tout à l'heure, avec la thématique principale du Festival 2025, qui est cet hommage à Maurice Ravel, grand compositeur français dont on fête les 150 ans de la naissance. Donc effectivement, il y avait à la fois des choses symboliques de faire venir des gens de très loin pour jouer la musique française dans un lieu de patrimoine ardéchois.
Maurice Ravel, dont on connaît toutes et tous le Boléro, mais la plupart des gens s'arrêtent là et ne connaissent pas l'œuvre monumentale de ce compositeur.
Et dans le festival, justement, ce qui m'a amusé dans la programmation, c'est à la fois de jouer des œuvres classiques comme ce quatuor, mais aussi d'en revisiter. Nous sortirons à la Gorce notre prochain disque pour un monomoni qu'on a enregistré là-bas. On est avec un musicien de jazz, on revisite la musique de Maurice Ravel. Ce célèbre Boléro, on l'entendra à Bourg-Saint-Andéol par 4 saxophones.
Wow.
Voilà, c'est vraiment des choses étranges.
Inédit,
c'est tout à fait inédit, et c'est ce qui m'intéresse finalement, c'est de surprendre un petit peu dans le contenu.
Alors on parle de musique de chambre, mais peut-être certains de nos auditeurs sont comme moi, des béotiens, et ne savent pas vraiment comment définir la musique de chambre, parce qu'en quelques mots, vous pouvez nous en dresser une vulgarisation.
Pour être très simple, la musique de chambre, on va dire que c'est une musique qui se joue à plusieurs, sans chef d'orchestre. Voilà, on retire le chef d'orchestre, donc ça définit effectivement le nombre maximum de musiciens. Musique de chambre, on va passer de 2 à 8 à peu près. Et puis c'est une sorte de dialogue entre musiciens qui vont se parler avec leurs instruments sans qu'il y ait quelqu'un qui leur dicte la manière de se parler.
Alors, un dialogue entre musiciens pour ce concert du 28 juin et ensuite un dialogue entre le public et les musiciens. Il y aura un temps d'échange possible après le concert.
Ça aussi, c'est les cordes en balade. Les cordes en balade, pour moi, je souffre parfois dans nos tournées nationales et internationales du fait qu'on fait un moment de musique et puis qu'il n'y a pas de contact après avec le public, qu'il n'y a pas de contact avec les lieux, avec le patrimoine, avec les gens qu'on rencontre. Et dès le début du festival, j'ai insisté sur le patrimoine, le concert, la rencontre d'après-concert et généralement, si on peut déguster quelques petites spécialités ardéchoises, ça se fait avec plaisir.
Et ça ne manque pas.
Et ça ne manque pas, du picodon à tous les vins ardéchois, on a largement de quoi faire.
Rendez-vous donc ce 28 juin à partir de 11h pour cette randonnée musicale du côté du château de la Tourette dans le cadre des 07 Merveilles de l'Ardèche. Et on pourra également ce 28 juin vous rencontrer, Gonzague de la Tourette, sur place. Vous allez proposer une visite du lieu.
Oui, tout à fait. Oui. Alors il y a déjà le site, qui est un site remarquable. Et puis, le château, ou tout au moins ce qu'il en reste, sur son piton rocheux, la maison forte avec les pièces du rez-de-chaussée, et puis cette terrasse avec son mur de soutènement. Ce sont les trois éléments qui sont vraiment intéressants.
Quand vous êtes sur place, j'imagine que c'est toujours particulier de rencontrer les gens et comme ça de leur transmettre tout ce que vous savez, tout ce que vous tenez aussi de votre famille par rapport à ces lieux-là. Ce doit être des moments émouvants pour vous, non ? Bah comment, oui, vous les vivez, ces moments-là ?
Il faut dire, au départ, moi j'ai hérité de mon père en 1974 des ruines de la Tourette. Mon père disait qu'on n'en ferait jamais rien. Et puis alors, c'est... la fin des années 90, que l'agriculteur, notre voisin, nous a signalé qu'une partie du toit de la maison forte s'était effondrée et qu'il fallait faire quelque chose assez rapidement si on voulait préserver ce bâtiment. C'est là qu'on a entrepris des travaux et pour moi, ça a été le projet de toute ma retraite, finalement. Je suis en admiration devant le courage et l'œuvre des anciens. Arriver à bâtir un tel monument sur son piton rocheux, quand je vois qu'aujourd'hui, pour monter un échafaudage, c'est une opération dangereuse et il faut faire appel à des spécialistes. Pour la petite histoire, l'échafaudiste de Notre-Dame de Paris, Didier Cuiset, là, qui vient d'être décoré par le président Macron, il est venu à la Tourette avec l'architecte des monuments historiques Didier Réplin pour voir ce qu'on pouvait faire. Le résultat, c'est que ça va coûter assez cher pour pouvoir construire un échafaudage autoportant, c'est-à-dire qui ne s'appuie pas, qui ne se fixe pas sur les pans de mur qui restent parce que ça serait trop dangereux. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que le projet de consolidation des ruines risque de capoter faute de moyens.
Alors, les anciens étaient-ils plus doués ou plus inconscients qu'aujourd'hui,
à votre avis ? Je pense qu'ils étaient plus doués.
Peut-être un peu les deux.
Ah oui, mais conscients. Oui. Quand on voit, par exemple, le pan de mur qui reste du donjon, il y a 21 mètres de hauteur avec une arête, c'est extraordinaire. Juste sur la limite d'un rocher, je ne sais pas comment ils pouvaient tenir... Eh bien, cette arête est magnifique et que ce soit les architectes ou les maçons qui ont mesuré tout ça, c'est absolument vertical, rectiligne et...
Au cordeau.
Au cordeau.
Si on n'est pas dispo le 28 juin pour différentes raisons, il y a d'autres occasions de vous rencontrer ou de découvrir ce château de la Tourette, Gonzague ?
Oui, chaque année, on ouvre pour les journées du patrimoine, vendredi, samedi, dimanche, là, pour les journées du patrimoine. Et puis... En cours d'année, s'il y a des personnes qui nous demandent, on les reçoit très volontiers. Il y a par exemple l'association des Huguenots d'Ardèche qui nous a demandé s'ils pouvaient venir visiter. On prend rendez-vous et dans la mesure du possible, si on est là, on fait visiter, on est disponible. Il arrive aussi parfois qu'il y ait des randonneurs, parce que comme l'indiquait M. Enzo... c'est sur un chemin de grande randonnée, donc il y a des groupes de randonneurs et parfois ils font une petite pause à la Tourette parce qu'ils ont remonté les gorges de la Dunière. À cette occasion, on leur fait visiter
le site avec plaisir.
Le site, oui. Voilà.
Enzo Roux, justement, pour participer à cette journée, je crois savoir qu'il faut quand même se préinscrire.
Exactement, déjà pour contrôler un petit peu la jauge sur site, puis encadrer cette fameuse randonnée qui nous mènera jusqu'au château avec un formulaire d'inscription qui est déjà disponible sur le site du département, donc ardèche.fr/07merveille. Et puis une adresse mail aussi si vous avez des questions ou vous voulez vous inscrire par mail, 07merveille@ardèche.fr pour nous contacter. Et on vous rappelle, l'événement est totalement gratuit et en partenariat, et on les remercie grandement avec le fonds de dotation Abbaye de Lubilac.
En tout cas, on ne manquera pas de venir faire un petit tour et découvrir ce château et la musique évidemment du quatuor Nouveau Talent qui va intervenir au château. Enzo, tant que je suis avec vous, le prochain podcast des 7 merveilles, 07 merveilles de l'Ardèche.
Le mois prochain, on sera du côté d'Aubenas à la maison Michel Vérinck pour un concert également de musique avec La Baume en musique, très dynamique sur ce territoire, pour un concert dans cette magnifique cour qui a d'énormes traces archéologiques à nous dévoiler.
Ce sera bien sûr à réécouter sur le site du département et ceux de toutes les radios partenaires. Merci à tous les quatre d'être passés par cette émission Archivif. Alors nous étions avec Gonzague de la Tourette, je le rappelle, propriétaire du château de la Tourette qui accueille cet événement. Christophe Colette, directeur artistique du Quatuor de Bussy. Aude Poinceau, conservatrice déléguée aux antiquités et objets d'art aux archives départementales de l'Ardèche. Et puis avec vous, Enzo Roux, fil rouge de ces émissions Archivif, chargé de mission des 07 merveilles de l'Ardèche. Et puis je rappelle aux auditeurs, donc, qu'il ne faut pas manquer ce rendez-vous du 28 juin pour ce concert des nouveaux talents invités par Cordes en Balade et que les inscriptions sont ouvertes. Merci à toutes et tous et à très bientôt.
Merci, à bientôt.
À bientôt.